Bonsoir à toutes et à tous. Gigantesque incendie suivi d'une explosion à Rouen dans la nuit de mercredi à jeudi. Une usine Seveso, classée à haut risque à seulement 3 km du centre-ville, a brûlé toute la nuit, provoquant une fumée longue de 20 km avec des retombées sur toute la ville. Rouen est clairement pollué, a lancé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, en déplacement dans la ville. Surtout, les habitants ont été livrés à eux-mêmes. Certains ont même décidé de fuir la ville en pleine nuit pour échapper à des émanations potentiellement toxiques. Et l'inquiétude grandit sur les conséquences de cet incendie, malgré les propos rassurants du préfet de Seine-Maritime. Alors, quel est le degré de contamination? Quel danger représente l'explosion de cette usine classée Seveso à haut risque? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Rouen pollué, faut-il avoir peur ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Gossemant, vous êtes avocat spécialiste en droit de l'environnement. Nous accueillons Sébastien Bailly, journaliste à Ouest France. Vous suivez les événements sur place depuis le début et vous étiez sur le site de Lubrizol dans cette nuit de mercredi à jeudi, vous nous raconterez. Alexandra Schwarzbrod, vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération, Libération qui titre aujourd'hui « Rouen, sale angoisse ». C'était d'ailleurs l'objet de votre éditorial. Et enfin, Laurence Labatte, vous êtes chef de service du laboratoire de toxicologie à l'hôpital Lariboisière de la PHP. Sébastien Bailly, on va commencer par regarder cette une spectaculaire de Paris-Normandie. Voilà, c'était vendredi matin. Paris-Normandie est le seul quotidien à ne pas avoir fait sa une sur Jacques Chirac. Vous étiez sur place durant cette nuit de mercredi à jeudi. C'était vraiment un choc et cette image reflète un petit peu l'émotion ou ce que vous avez ressenti.
Alors, cette image est spectaculaire. Moi, j'étais sur le pont à 5h20, au moment des explosions, au moment où cette photo a été prise, peu ou prou, ça correspond à ce moment-là. J'avais jamais vu ça. J'étais à 500 mètres, en fait, du lieu de Seveso, sur un pont, un peu en surplomb. Et au moment des explosions, il y a des morceaux qui me sont passés au-dessus de la tête à 500 mètres du lieu. C'est vous dire la violence des explosions à ce moment-là. À ce moment-là, personne n'est prévenu. Et donc les voisins, effectivement, qui entendent les explosions, alors on les a entendus très très loin dans Rouen, mais les voisins tout proches du site se sont levés, ont vu ce qui se passait, et pour certains que j'ai eu au téléphone avec qui j'ai parlé, ont effectivement mis femme et enfant dans la voiture. Et sont partis, comme dans un film catastrophe américain, exactement, le plus loin possible dans la direction opposée de
l'usine. 5 heures du matin, les riverains ont décidé de partir, de quitter la ville.
Vous avez, en fait...
Mais vous saviez que c'était une usine Seveso ou pas?
Alors, c'est une usine Seveso 2. Tout ça est connu. Quand on achète une maison à Rouen, il y a les cercles des usines Seveso. Donc, on sait quand on est en zone dangereuse. Et en fait, à Rouen, on est à peu près tous dans une zone Seveso. C'est une particularité locale. Donc, on le sait. Donc, on sait qu'il peut se produire quelque chose. Il s'est produit un accident en 2013. Donc, on n'est pas habitué, mais on sait que ça peut arriver. Voilà. Donc, on sait aussi qu'il y a des produits potentiellement dangereux sans forcément savoir exactement lesquels.
De quoi vous aviez le plus peur? Alors, des émanations que vous pouviez respirer, de l'embrasement
Je pense que c'est de ne pas savoir. C'est l'ampleur que peuvent prendre les choses. Une petite explosion, c'est une petite explosion. Ça peut devenir une grosse explosion. Enfin, à un moment, quand on n'est pas de la partie, on ne sait pas. Et cette histoire de « on ne sait pas », elle est au cœur de ce qui s'est passé pendant 48 heures pour les gens, pour l'angoisse des gens, pour le ressenti de la population par rapport à une communication un peu administrative, parfois floue, avec des injonctions parfois contradictoires qui ne permettent pas de comprendre ce qui se passe.
C'est-à-dire, je vais vous rester chez vous, mais...
Alors, l'ordre de confinement, il a été donné, mais on a des injonctions qu'on essaye de tout prendre quand on est dans cette situation-là. Les postiers, on leur a dit, vous n'allez pas travailler, par exemple. J'en ai parlé à mon facteur ce matin, on l'a appelé le matin, on lui a dit, tu ne vas pas travailler. Donc, il n'est pas allé travailler ce jour-là. Mais les bus sont partis. Ah ouais. Les bus sont partis, mais l'après-midi, ils se sont dit non, on arrête. Du coup, ils ont arrêté. Mais les gens qui avaient pris le bus pour aller au bureau se sont retrouvés coincés et n'ont pas pu rentrer chez eux. Donc, ma pharmacienne a distribué des masques aux gens qui devaient faire 5 km à pied pour rentrer chez eux. C'est cette situation un peu ubuesque, un peu incompréhensible, qui a rendu les choses assez difficiles à vivre à Rouen.
Alors, on va revenir sur ces 48 dernières heures que vous avez vécues à Rouen. D'abord, Alexandra Schwarzbrod, on a quand même eu 4 ministres qui ont fait le déplacement. Jean-Michel Blanquer, Agnès Buzyn, Elisabeth Borne et évidemment Christophe Castaner.
Ça a été le premier à venir.
Voilà, ça montre quand même l'importance. Enfin, le gouvernement, on venait d'apprendre le décès de Jacques Chirac, le gouvernement quand même, décide de prendre la chose, ne veut pas être accusé en tous les cas de légèreté.
De légèreté. Non, mais c'était très impressionnant, hein, ce gouvernement qui expédie 4 ministres en 2 jours. Et ça montre bien, en effet, qu'il a pris la mesure de l'angoisse, sans doute, sur place et même ailleurs, hein, parce que tout le monde sait que les usines Seveso, il y en a, quand vous regardez la carte avec les implantations des sites Seveso en France, c'est très impressionnant, il y en a partout. Il y en a partout, je crois qu'il n'y a pas d'endroit qui soit épargné par ça. Et donc c'est très concernant pour la population. Et donc le gouvernement a très vite compris, sans doute instruit aussi par l'incendie de Notre-Dame, hein, qui avait provoqué une terrible émotion, mais là, bon, il y avait encore une autre dimension, mais quand même, ça avait provoqué une très grande dimension et une forme d'angoisse. Et là, le gouvernement a très vite compris qu'il fallait réagir très vite, très très vite, avant en effet que l'angoisse ne prenne des proportions, qu'on ne passe dans l'irrationnel. Et c'est vrai qu'on a bien vu que sur place, rien que ce que vous avez montré tout à l'heure, ces hommes dans des combinaisons blanches, des masques, très vite, l'irrationnel peut prendre le pas sur le rationnel, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? On pense à ses enfants, aux personnes âgées. Donc là, le gouvernement a réagi, je crois, plutôt, il a pris la mesure du danger. Alors, j'ai été assez frappée par les propos d'Agnès Buzyn hier qui disait « il y a pollution ».
Ah oui, Rouen est clairement pollué.
Le Rouen est clairement pollué, ce qui est quand même, je ne sais pas si vous avez un historique plus important que moi là-dessus, mais il me semble que ça se fait rarement qu'un ministre dise « oui, c'est clairement pollué ». Donc, ce qui montre bien qu'ils ont compris aussi que les gens ne voulaient pas être pris pour des idiots, ne voulaient plus être pris pour des idiots, et qu'il fallait leur dire les choses, et que finalement, pour calmer une population, il valait mieux dire les choses plutôt que d'essayer de la cacher, parce qu'il y a une vraie volonté de transparence aujourd'hui, et a fortiori en matière environnementale.
Alors, Arnaud Gossement, il y a déjà plusieurs plaintes qui ont été déposées pour mise en danger d'autrui, et une population, Sébastien Bailly le disait à l'instant, qui a eu l'impression d'être livrée à elle-même. On a dit les Rouennais se sont réveillés à 8h du matin, ils ont vu ça, on ne leur a donné aucune indication.
Le paradoxe, c'est que nous avons une réglementation qui est assez touffue, qui est assez efficace, complète, mais c'est une réglementation qui est assez récente. Et cette réglementation, elle a pour but justement de mieux informer à la fois l'administration, c'est-à-dire mieux que l'exploitant industriel dise le plus possible à l'administration ce qu'il y a sur son site, et les populations riveraines. Le problème que nous avons, c'est que Lubrisol Rouen, c'est un site qui a été construit en 1954. Donc c'est une ancienne industrie. Et les réglementations qui ont pour but de mieux informer la population sont très récentes. Grosso modo, cette réglementation date de 2003. Et le plan de prévention des risques technologiques, ce plan qui a été élaboré à l'échelle de cette zone industrielle pour notamment permettre d'éloigner un peu les riverains ou leur permettre de financer, notamment via des crédits d'impôt, des mesures de mise en sécurité de leurs habitations. Toute cette réglementation protectrice, elle est assez récente et elle est à peine mise en œuvre en fait aujourd'hui. Encore l'an dernier, en France, sur les 392 plans qu'il fallait élaborer, on en était à 372, alors que c'est une mesure qui date de 2003. Vous voyez, depuis 10 ans simplement. C'est suite à AZF, effectivement. Donc en fait, ces mesures sont assez récentes, ce droit est assez récent et concerne des vieux sites industriels qui, effectivement, aujourd'hui, on n'autoriserait plus un site industriel à être aussi proche des habitants et a fortiori proche du cœur du centre-ville d'une ville aussi importante.
3 kilomètres.
Ça serait absolument inenvisageable. Mais c'est vrai que, voilà, on est face à ce paradoxe entre une vieille industrie et un droit beaucoup plus récent. Et si je peux me permettre aussi, avec, pour rebondir sur ce que disait Alexandra Schwarzbrot, le problème aussi de la transparence. Pour les pouvoirs publics, le plus important, c'est aussi de ne pas créer de la panique. Parce que lorsque vous avez une situation de danger telle que celle-ci, si tout d'un coup vous dites aux gens « c'est la catastrophe », peut-être que tout le monde va prendre sa voiture, qu'il y aura des embouteillages monstres, que les urgences vont être saturées, le SAMU aussi. Donc à un moment donné, il faut aussi apaiser les choses pour ne pas ajouter un problème à un problème. Mais ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens veulent être considérés comme des adultes. Lorsqu'on leur dit « tout va bien, rassurez-vous », un peu comme pour Notre-Dame en avril, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a des associations ou des citoyens qui ont des capacités d'expertise, des capacités de compréhension des choses et qui disent « moi, je ne veux pas simplement qu'on me dise que ça aille bien ». Je veux qu'on me donne les résultats eux-mêmes, qu'on me donne les données, qu'on me donne les tableaux et que je vais être capable de produire ma propre expertise sur ce problème-là. C'est le même parallèle qu'on a eu au moment de Notre-Dame, lorsque l'ARS, l'Autorité régionale de santé, a dit « ça va », mais on a attendu...
On va en parler, hein.
début juillet, effectivement, pour avoir
qu'il y avait 400 tonnes de plomb qui avaient fondu et qui s'étaient déversées sur tous les alentours.
Il a fallu attendre plusieurs mois. C'est pour ça que là, on voit bien que le gouvernement a décidé, effectivement, d'aller beaucoup plus vite. Ouais. Les tests devraient être mis en ligne ce soir, un peu plus tard dans la soirée.
Alors, le préfet a dit qu'il y a une partie des tests dont on n'a pas encore les résultats. On n'a pas les tests
complets. Normal aussi.
C'est normal, voilà.
C'est normal aussi. Mais ils vont quand même beaucoup plus vite, je trouve, dans la mise en ligne de ce qu'ils ont déjà que pour d'autres catastrophes par le passé.
Laurence Labatte, justement, le préfet dit état habituel de la qualité de l'air. On va revoir la fumée quand même. Et c'est Le Monde qui disait une fumée bio, ça n'existe pas. Une fumée de 20 km, on sait qu'il y a des images d'oiseaux qui sont morts parce qu'ils aient, tout simplement, ils ont essayé de traverser ce nuage de fumée. Forcément, on se dit que cette fumée, c'est pas anodin, elle n'est pas...
Alors, il n'y a aucune fumée qui est anodine. Je dirais, ouais. Une fumée, on a vu tous les images.
Fumée d'hydrocarbures.
Même si, si on n'était pas sur place. Bon, une fumée, de toute façon, il y a de la combustion. Donc, par définition, il y a de l'hydrocarbure, il y a des métaux. Il y a une composition qui est différente en fonction des fumées. Et là, certes, cette fumée était très dense. Alors après, il faut voir en termes de retombées ce que ça donne. C'est-à-dire que la fumée, est-ce qu'il y avait beaucoup de particules ? Comment est-elle composée ? Cette fumée, elle est composée à partir de ce qui se passe au départ. Donc, il y a des hydrocarbures qui sont brûlés, il y a des plastiques qui sont brûlés, voilà, il y a tout un mélange. Donc, il y a une composition différente, je dirais, à chaque cas. Et là, c'est certainement...
Un toit en amiante, on y reviendra, qui a brûlé.
Un toit en amiante qui a brûlé. Mais bon, focalisons-nous plus sur les hydrocarbures et sur la problématique des métaux. Je pense qu'on est là-dedans. Alors, les résultats que moi, personnellement, je n'ai pas vus, même en tant que toxicologue, parce que ce sont des résultats d'air. Donc, ce sont des résultats bien particuliers réalisés par des laboratoires qui ont cette expertise. Ben, il faut les confronter. Il faut regarder qu'est-ce que... Je n'ai pas vu ces résultats. Quelles sont les valeurs ? Est-ce que ce sont des valeurs habituellement rencontrées dans des fumées de ce type ? Est-ce que, au contraire... Alors, ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus élevées pour certains produits, mais ces produits ne sont pas reconnus comme ayant une toxicité particulière. Vous savez que dans les hydrocarbures, on a des...
Ouais, ça va être une longue enquête, vous nous expliquez.
Longue enquête et puis difficile, difficile. Voilà.
Alors, après l'incendie de l'usine Lubrizol, la polémique ne s'éteint pas. Donc, bien au contraire, pour beaucoup d'habitants de l'agglomération rouennaise, il est difficile de croire que cet épais nuage de fumée, d'hydrocarbures qui s'est répandu au-dessus de la ville n'est pas... causer une pollution plus grave que ce qui est communiqué par les autorités. Sujet de Mathieu Lignot, Victoria Rouxel et Diane Cacciarella.
Odeur nauséabonde d'hydrocarbures dans les rues de Rouen, maux de tête et haut-le-cœur. Aujourd'hui, dans le centre-ville, des habitants s'inquiètent des conséquences de l'incendie et certains s'équipent avec des masques.
On vient d'en acheter 6, voilà. Parce qu'ils les vendent par 6. Parce que tout à l'heure, comme je vous disais, selon les vents, y a des horaires désagréables. Alors l'écharpe, c'est bien 5 minutes, mais on est comme ça, on la remet. Donc là, on a pris des masques par précaution, aussi pour la personne âgée qui sont autour de nous. Car comme on dit, on en a tous aussi quelques-uns. Moi, mon papa a 82 ans, donc je lui dis, tu mets un masque pour sortir, ça coûte rien. Voilà, faut prendre des précautions.
On essaie de nous faire croire que c'est pas grave, qu'il n'y a pas de problème pour la santé. Moi, je regrette... Je pense au nuage de Tchernobyl. On a essayé de nous faire croire qu'il n'était pas venu sur la France.
Depuis 2 jours, des internautes publient des photos sur les réseaux sociaux. Suit des peaux noirâtres, flaques d'hydrocarbures. Voici les conséquences de ce spectaculaire incendie. Jeudi, en pleine nuit, une partie de l'usine Lubrizol part en fumée. Plus d'un hectare de bâtiments classés Céveso brûle pendant des heures. 200 pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes. Un panache sombre de 22 km de long et 6 km de large flotte dans le ciel normand. Dans cette fumée, des particules d'amiante et des hydrocarbures utilisés pour fabriquer des lubrifiants. Face à l'inquiétude, le préfet se veut rassurant.
Nous avons effectué des analyses dès cette nuit pour vérifier la toxicité de ce panache de fumée. Les analyses n'ont pas fait apparaître sur les principales molécules de risque de toxicité aiguë. Tout panache de fumée est polluant, nous en sommes d'accord, mais il n'y a pas là de toxicité particulière qui aurait impliqué, par exemple, du confinement ou de l'évacuation.
Le préfet dévoile aujourd'hui de nouveaux résultats d'analyse. Pas d'inquiétude selon lui, la qualité de l'air est normale, hormis une présence de benzène, seulement dans le périmètre de l'incendie. Hier, les ministres de l'Environnement et de la Santé appelaient les Rouennais à la prudence.
La ville est clairement polluée. S'essuie, il faut imaginer cela comme une pollution comme des galettes, par exemple, de goudron sur les plages. Si on voit des galettes de goudron sur les plages, on demandera aux enfants de ne pas les toucher et de se laver les mains. Eh bien, c'est la même chose que nous demandons aux riverains aujourd'hui. C'est-à-dire de nettoyer ces suies, ces galettes, ces saletés, visuellement très repérables, en prenant des précautions, notamment en mettant des gants.
Seine polluée, école fermée jusqu'à lundi. L'incendie provoque déjà une polémique politique. Les autorités gèrent-elles suffisamment bien la situation ? L'ancienne ministre de l'Environnement, Delphine Batteau, demande une enquête.
Il faut une enquête administrative et une transparence totale sur l'impact du panache de fumée qui s'est échappé de l'usine. On ne peut pas se retrouver avec un deuxième Notre-Dame de Paris, où l'on découvrirait des mois après des problèmes sanitaires liés à cet incendie.
À quelques kilomètres de l'usine, les agriculteurs attendent aussi des réponses. Ils sont en première ligne face à cette pollution. Stéphane Donquel est éleveur. Une pluie noirâtre a touché ses bottes de paille et ses vaches. Il craint que sa production de lait soit contaminée et bonne à jeter.
On nous préconisait de rentrer nos animaux. On nous demandait de ne plus récolter le maïs. Mais nous, on a besoin de savoir un peu plus quand même par rapport au risque. Parce qu'on produit des matières alimentaires et encore une fois, on n'est pas là pour intoxiquer les gens.
Les appels à plus de transparence se multiplient. Au moins 8 riverains de l'usine ont annoncé déposer une plainte contre X pour dommages corporels et manquement à l'obligation de sécurité.
Voilà, et d'ailleurs, pour compléter ce reportage, à l'instant, le préfet de Seine-Maritime a ordonné le gel de toutes les productions et récoltes depuis jeudi dernier. Question téléspectateur, yeux et gorge irrités, difficultés respiratoires, vomissements, et on a l'indécence de dire que la pollution n'est pas trop grave. Alexandra Schwarzbord, on la voit bien cette suspicion. Dans le reportage, il y avait une dame qui disait c'est le nuage de Tchernobyl qui ne s'est pas arrêté aux frontières, on le sait bien.
Bien sûr, et c'est pour ça que le gouvernement a dépêché ces quatre ministres. C'était aussi pour montrer que finalement, si Agnès Buzyn et Elisabeth Borne allaient sur place, c'est qu'elles pensaient qu'il n'y avait pas de risque sur leur propre santé et donc, a fortiori, sur la population. C'était aussi l'autre message qui était envoyé. Mais le problème, c'est qu'on le voit bien, il y a quand même une décrédibilisation de la parole politique. C'est-à-dire que les gens n'ont plus confiance. Après AZF, après Notre-Dame, il y a plus...
Alimentée d'ailleurs par Delphine Batteau, qui est elle-même une ancienne ministre.
Qui est une ancienne ministre, oui.
Discrédite ses successeurs.
Bon, elle est dans son rôle d'opposante, si je puis dire. Enfin, si tant est que ce soit son rôle d'angoisser la population. Mais c'est une politique, Delphine Batteau. Mais... le problème, c'est qu'on ne croit plus. C'est que les gens, la population, ne croient plus le politique. Donc, quand il dit que les résultats ne sont pas, enfin qu'il n'y a pas d'inquiétude grave pour la santé, les gens ne les croient plus. Et c'est ça le problème. Et je pense que le fameux nuage qui s'arrête de Tchernobyl, qui s'arrête aux frontières, a fait des ravages terribles dans l'esprit des gens. Parce que voilà, ça revient. Il revient à chaque catastrophe, ce fameux nuage.
Sébastien Bailly, quelle était l'ambiance hier dans les rues de Rouen ? Est-ce que les gens avaient toujours des masques, même si on dit que ça ne sert pas à grand-chose ? Est-ce qu'il y a des restaurants, des commerces avaient fermé pour se protéger, se barricader ? On sait que des écoles ont été fermées, évidemment, dans 13 communes.
Dans 13 communes, les écoles ont été fermées. C'est là où je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec vous. Les gens ne pouvaient pas tellement mettre en doute la parole politique parce que la parole n'était pas claire. La parole administrative n'était pas si claire que ça. Et pour mettre en doute, il faut que le discours soit assez clair. Là, on avait vraiment des signaux contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on nous dit « ça va aller, mais il reste des analyses à faire ». Donc, ce n'est pas mettre en doute, c'est qu'on attend. On n'a pas besoin de mettre en doute. Et puis, sans analyse, on a quand même les locaux de France 3, vos confrères, qui ont été vidés. Le premier jour, c'est-à-dire que les journalistes sont partis. Le journal a été fait depuis quand ? On a vidé les locaux qui sont en face de Lubrizol. Donc c'est des signaux forts. On ferme les écoles, il se passe bien quelque chose et en même temps on nous dit que c'est pas grave. C'est pas mettre en doute la parole politique, c'est qu'à un moment là j'ai pas grand-chose à quoi me raccrocher. Je peux pas dire on me ment, on me dit pas bien les choses. Et je crois qu'il y a beaucoup ça. Ensuite, effectivement, l'ambiance dans Rouen, elle est le reflet de ça, de ce flou-là.
Et alors, comment ça se manifestait ?
Ça se manifeste de façon assez drôle.
Les gens étaient chez eux, les rues étaient désertes ?
Non, Alors, beaucoup moins de monde. Le facteur a sonné chez moi ce matin, il m'a dit « Ah, vous êtes là ?» C'est amusant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là.
Donc, voilà. Sont partis,
oui, qui sont partis. Il avait un recommandé à me donner. Et en fait,
il était, la ville ?
Oui, il était surpris parce que les gens sont plus partis en week-end que d'habitude.
C'est le moment ouais. d'aller au
voilà.
bord de bon, mer.
C'est un bon moment pour, voilà, pour aller prendre l'air.
Prendre l'air.
Ouais. Et effectivement, dans les rues, il y a moins de monde. Et puis, vous avez à la fois moins de monde, des gens avec des masques, pas tant que ça, 1 sur 10, 1 sur 8, pas ouais. tant que ça. Et puis, des gens en terrasse, la cigarette à la main, en train de boire un coup. Donc, on a des gens qui prennent en fait, les choses de manière différente, avec une ambiance qui, du coup, est assez surréaliste. Beaucoup moins de monde dans les magasins. Mais une ambiance assez étonnante.
Laurence Labatte, on sait qu'il y a une odeur très forte, donc c'est qu'on respire quelque chose. Alors on parle de mer captant. Forcément, quand on est exposé, on finit par être contaminé.
Alors, si vous voulez, on est toujours exposé. Ici, on est à Paris, on va sortir dans une heure dans la rue, on est exposé aux hydrocarbures, on est exposé à plein de choses qui sont dans notre environnement. Voilà. On sent ou on ne sent pas. Il n'y a pas forcément une relation directe entre l'odeur et la toxicité, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui sentent bon et qui sont très toxiques, qui sont même classés reprotoxiques et cancérogènes. Je peux vous citer l'exemple des éthers de glycol, par exemple, dans les peintures à l'eau. Il y avait beaucoup d'éthers de glycol autrefois. Évidemment, les gens peignaient, les fenêtres bien fermées dans les maisons. Et en plus, ça sentait bon.
Alors là, en l'occurrence, voilà. Cette usine Lubrizol, puisqu'on n'a pas dit ce qu'elle faisait, elle faisait justement des additifs pour des peintures, pour de l'huile, etc. C'était voilà. typiquement ce genre de voilà. produit qu'elle fabriquait.
Et donc, par exemple, dans cet exemple, c'est des produits qui sentaient bon. Tout le monde était... Donc, personne ne disait rien. Les femmes enceintes repeignaient les chambres pour les futurs bébés. Produits CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. C'est pas, il n'y a pas de.
C'était
de
autorisé,
lien
on ne savait pas, on ne connaissait pas la toxicité. Pas.
La classification a été faite après, on ne le savait pas. Il y a beaucoup de choses qu'on sait maintenant. On sait par exemple dans les hydrocarbures, il y a des centaines et des centaines d'hydrocarbures. C'est vraiment la molécule organique de base, et donc il y a vraiment des compositions qui sont très différentes. Vous avez certains qui sont classés CMR. J'entendais parler de benzène tout à l'heure. Là, c'est la première fois que j'entends la présence de benzène sur un environnement à proximité du site. On sait, le benzène, c'est un produit qui est CMR.
Ça toxique, fait partie. Donc.
C'est un hydrocarbure.
CMR.
Oui, toxique.
D'accord.
Toxique pour.
Et le fait qu'on ait des vomissements, est-ce que c'est un symptôme qu'il y a quelque chose dans le corps qui se passe et qui ne devrait pas se passer?
Oui, évidemment, vous êtes dans un environnement où il y a une odeur qui est désagréable. Vous avez peut-être aussi le phénomène de stress, je veux dire, se retrouver en pleine nuit ou tôt le matin avec de la fumée, des gens qui, ouais. je ne sais pas, moi, je n'y étais pas, m'écrit. Vous avez un phénomène de stress qui aussi engendre ces manifestations cliniques de classiques, quoi.
Alors, Sébastien Bailly, est-ce qu'on sait précisément ce qu'il y avait dans cette usine Seveso? Quels sont les produits qui ont brûlé et auxquels nous sommes exposés et dont nous respirons à plein poumon, ou les Rouennais notamment, respirent à plein poumon les contaminations, les émanations?
Aujourd'hui, moi, je ne le sais pas. Normalement, légalement, effectivement, parce qu'il y a déjà eu un problème à Lubrizol en 2013 avec un nuage de mer captant très important qui a été senti jusqu'à Paris, qui a beaucoup fait parler de lui. C'est une usine qui était vraiment sous surveillance, encore plus qu'une Seveso 2.
Ne pas savoir, je vais vous dire, c'est terrible. Parce que sur les réseaux sociaux, il suffit d'y aller.
Oui,
on voit des horreurs. Les gens disent qu'il y a des produits radioactifs dans cette usine Seveso.
Légalement, on doit savoir. C'est-à-dire qu'à un moment, au moment où ça brûle, il doit y avoir quelque part les documents qui disent exactement ce qu'il y avait à cet endroit-là. C'est-à-dire que donc quelqu'un doit savoir ce qu'il y avait. Donc moi, je ne sais pas. Effectivement, après, il y a eu des rumeurs. Alors, il se trouve que comme j'étais sur le terrain, je ne les ai pas beaucoup vus. Je suis un des. C'est pour le coup. Donc, ce n'est pas moi qui en parlerai le mieux, mais il y en a toujours dans ces moments-là.
Alexandra Schwarzbach.
Oui, sur cette histoire de produits radioactifs qui, en effet, a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. On a notre service Check News qui vérifie les faits, a enquêté là-dessus. Et en fait, ce n'était pas des produits radioactifs, mais c'était des instruments de mesure qui contenaient un peu de radioactivité, mais pas dangereuse. Enfin, a priori, beaucoup moins dangereuse pour la santé que des produits radioactifs.
Et on voit bien la nécessité d'être transparent, parce que sinon, les fake news circulent sur les réseaux
bien
sociaux.
Sûr. Non, et c'est en effet très angoissant quand on voit des choses comme ça, quand on n'est pas informé correctement.
Alors Arnaud Gossman, cette usine Lubrizol était une usine Seveso, et alors Seveso à haut risque.
Oui.
Alors, ça veut dire quoi là? C'est le risque au carré? Parce que ces vaisseaux, déjà, ça fait peur.
En fonction de la quantité de matière dangereuse qui se trouve sur un site industriel, vous pouvez être classé, pas du tout Céveso, Céveso seuil 1 ou seuil 2, effectivement, seuil bas ou seuil haut. Vous avez à peu près 1300 usines Céveso en France, moitié-moitié entre le seuil haut et le seuil bas. Qu'est-ce que ça veut dire Céveso? C'est le nom d'une catastrophe qui s'était produite en Italie, qui a donné lieu à une loi européenne puis à une loi française. Ça postule qu'on doit beaucoup plus renforcer l'information et l'administration et des citoyens. Mais regardez AZF, par exemple, si je fais un tout petit parallèle, et je crois qu'on va y revenir. AZF, c'est 2001. Le procès se termine en novembre 2019. Il n'est même pas encore terminé, le procès d'AZF. Et qu'est-ce que nous dit ce procès? C'est qu'on ne sait pas exactement quelle est la cause de cette explosion qui, à l'époque, avait fait 30 morts, 2500 blessés, je crois, 30 000 sinistrés. Enfin, c'est vraiment une catastrophe absolument épouvantable qui avait ravagé tout un pan de grandes paroisses.
On va revenir sur AZF, effectivement.
Tout ça pour dire que sur ce site-là, Céveso, oui, moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que notamment lorsque j'entends le préfet qui dit il est confirmé qu'il y avait de l'amiante. Typiquement, ce type d'information, jusqu'à les matériaux qui rentrent dans la composition des bâtiments, etc. Lorsque vous êtes en Céveso, vous faites ce qu'on appelle une étude de danger et vous devez absolument tout décrire, y compris les hypothèses de sinistralité sont toutes très, très, très développées. Il manque un petit peu quelque chose dans cette réglementation. C'est effectivement, et c'est pareil pour les centrales nucléaires d'ailleurs, c'est tout ce qui est panache. On est sur des zones, on est sur des sites. On réfléchit beaucoup aux riverains à quelques kilomètres, mais ces histoires de panache à 20 kilomètres, objectivement, le droit est muet sur ces problèmes-là. D'ailleurs, jusque dans la fin des années 90, on n'avait même rien sur l'air. On avait des dossiers de demande d'autorisation, on ne parlait même pas encore de la qualité de l'air. C'est assez récent tout ça, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais effectivement, c'est un peu étrange qu'il n'y ait pas plus d'informations sur ce qui est exactement sur le site, même si après, sur la cause elle-même, c'est normal qu'on ne sache pas encore exactement ce qui se passe.
Il y a même le plomb. Là, ils ont...
Exactement. Mais alors, le préfet nous dit que le plomb était déjà présent dans l'environnement à ces endroits-là.
Alors, cette usine, ce n'est pas la première fois en plus qu'elle a des problèmes, Lubrizol.
Non, alors excusez-moi, si je peux juste rajouter un point sur Delphine Watteau qu'on a vu dans votre reportage.
Oui.
En 2013, elle est ministre de l'Environnement. C'est important de le rappeler. Donc, sa prise de parole est tout à fait légitime parce qu'elle a vécu, effectivement, vous avez raison, la première fuite de mercaptan.
Voilà, parce qu'en 2013, cette usine Lubrizol a déjà connu des problèmes avec une fuite de mercaptan. Donc, gaz, il paraît que le gaz, on l'a ressenti jusqu'à Londres.
Mais c'est sa fonction, d'ailleurs. C'est pour permettre notamment d'identifier les fuites dans les.
Ah, bah ça marche, hein. On l'a ressenti jusqu'à Paris et jusqu'à Londres. Ah oui, c'est ce qui sent le gaz, c'est du mercaptan.
Oui. C'est ça.
Et donc, c'est très odorifique.
Et donc, elle est ministre à ce moment-là et elle est confrontée, effectivement, à un problème qu'on connaît, qui est récurrent en matière de sécurité industrielle, c'est-à-dire des industriels qui, pendant des années et des années, sont informés qu'il y a des dysfonctionnements. Peu avant la catastrophe de 2013, le préfet avait déjà listé 17 manquements à la réglementation sur ce site-là. Et une administration qui n'a pas les moyens, il faut le dire très sincèrement, aujourd'hui, ni en moyens effectifs, ni en moyens matériels, pardon, ni en moyens humains, de faire un contrôle suffisant de ce type d'activité industrielle. Elle se concentre sur les sites les plus dangereux, mais elle se concentre quand même avec des effectifs qui restent insuffisants. Il faut savoir que vous avez à peu près 500...
Il n'y a pas les effectifs pour contrôler les 1300 sites Céveso.
Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le syndicat des inspecteurs de l'environnement qui a même observé une journée de grève en septembre 2018 pour le dire. Vous avez 500 000 sites industriels, 1 500 inspecteurs et en équivalent temps plein, ça vous en fait 1 200.
Sauf qu'en l'occurrence, Sébastien Bailly, cette usine Lubrizol a été inspectée en juillet dernier. Alors, qu'elle a été, on a une idée du compte-rendu de l'inspection?
Alors, ce que j'ai lu, c'est que le risque d'accident était d'un tous les 10 000 ans. Donc, on n'a a priori pas eu beaucoup de chance.
C'est-à-dire qu'elle avait été considérée comme aucun risque d'incendie.
Boum,
deux mois après, elle flambe.
Comme sûr, autant qu'on puisse l'être.
Il y avait des mesures de contrôle qui étaient... Non, il y avait quand même des mises en demeure, des constats d'infraction qui avaient déjà été faits, des manquements. Mais sur le contrôle qui a été fait en juillet, on n'a effectivement pas le détail en ligne de ce qui a été trouvé sur site.
Alors, donc, le préfet nous a dit, pour les humains, tout va bien, vous pouvez respirer, la suie, ce n'est pas toxique. Enfin, n'empêche... le gel de toutes les productions, le lait, les œufs, le miel, tout ça, interdiction d'y toucher. Laurence Labatte, c'est quand même, c'est bien le signe qu'on imagine ces vaches là qui broutent l'herbe sur laquelle s'est déposé tous ces hydrocarbures. Ça ne doit pas être terrible de boire le lait derrière, non?
Alors non. Alors quand vous regardez un peu l'historique de tous les événements qu'il y a eu dans les cas, alors site. Des gros sites comme celui qu'on a aujourd'hui ou des cas de sites pollués sans accident parce qu'il y a eu des gros sites, je citerai par exemple Metal Europe puisqu'on reparlait du plomb qui est un site pollué, il n'y a pas eu d'accident sauf que toutes ces précautions, elles ont été prises à ce moment-là parce qu'il y a eu des expertises qui ont duré des années, qui ont montré, en l'occurrence, par exemple, qu'il était non préférable d'aller cultiver et manger les carottes et les salades qu'on avait dans son petit jardin, qu'il valait mieux aller au supermarché et acheter ces mêmes légumes qui venaient de Rungis. Pourquoi ? Parce que ces légumes étaient exposés avec l'environnement proche des usines. Donc là, on est dans un type de mesure de précaution, il me semble. C'est-à-dire qu'il vaut mieux dire aux populations ne pas consommer les aliments qui n'ont pas été ramassés avant l'explosion. Il vaut mieux dire consommer tel type d'eau ou laver énormément tous les légumes ou les fruits que vous allez récolter. C'est de la précaution. Ouais. Si on ne fait pas ce type de précaution, dans un ou deux mois, on va dire « Ouh là là, tous les légumes, par exemple, ils étaient contaminés, il y a eu les suies qui sont retombées dessus, les suies contenaient des hydrocarbures et des particules et personne ne nous a rien dit.
Ouais. » Personne ne nous a rien dit. Alexandra Schwarzbrod, vous avez vu, il y a des habitants qui se sont cotisés pour faire une cagnotte litchi pour financer leur propre recherche. Ça veut dire que leurs propres analyses, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait confiance dans la parole publique et dans les analyses de la on va oublier, peut-être que on se dit le gouvernement va oublier de mesurer tel ou tel...
Mais oui, mais c'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que il n'y a plus de confiance dans l'État, dans la parole des représentants politiques et même du coup, par réaction en chaîne, dans les analyses qu'on peut donner. Si ça se trouve, les analyses que vient de donner le préfet vont être... celui qui l'écoute derrière sa télé peut se dire mais peut-être qu'on lui a donné la consigne de calmer les populations, etc. Enfin, c'est ça le problème. On revient au mot que vous prononciez au tout début, c'est l'angoisse. Là, on est... C'est tellement impressionnant, ça fait tellement peur qu'en effet, il n'y a plus rien de... C'est très difficile de se raccrocher au rationnel, surtout quand on a l'historique passé avec, c'est vrai, une parole politique qui a été soit absente, soit mauvaise, soit qui a essayé de tromper.
Donc, ça peut se concevoir, ça, Arnaud Gosselin, ne pas vouloir affoler le peuple en diffusant des seuils qui seraient critiques.
Regardez ce qui s'est passé pour Notre-Dame, par exemple, c'est très intéressant. L'incendie se produit, sauf erreur, au mois d'avril. Et des tests sont immédiatement faits par l'ARS. L'ARS,
c'est l'autorité régionale de santé. Régionale de santé,
oui, voilà. qui fait des tests pour savoir effectivement si cet incendie pourrait avoir un impact sur la santé publique. On sait que la toiture était composée de plomb et qu'il y a des risques de retombées de plomb et qu'il y a des enfants, des écoles, etc. etc. L'ARS va avoir le sentiment, je pense, intrinsèque de communiquer rapidement. Sauf qu'il faudra attendre juillet 2018 pour qu'effectivement les tests soient absolument présentés dans leurs détails. Entre-temps, des militants écologistes saisissent cette ARS en disant « Nous, les résultats, on les veut tout de suite ». Et l'ARS, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit « Écoutez, moi, je ne vous donne rien. Allez voir la commission d'accès aux documents administratifs. » C'est une commission, grosso modo, qui est chargée de faciliter vos démarches si vous voulez obtenir une information de la part de l'administration. Et ça a été publié dans la presse, chez vos confrères de Mediapart. Il y a une lettre du président de cette commission, que je n'ai jamais vue dans son style, c'est un conseiller d'État, ce sont plutôt des gens paisibles en général, qui là trouve absolument scandaleux, ce sont passés les termes, mais s'énerve véritablement en disant « Vous n'auriez pas dû renvoyer vers moi cette demande, vous auriez dû tout de suite faire preuve de transparence et sans délai communiquer ces documents-là ». Pourquoi est-ce que l'administration ne les communique pas ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a une culture, effectivement, ne paniquons pas. Et puis même, j'ai entendu le préfet le dire tout à l'heure, vous savez, ces résultats sont très techniques. Sous-entendu, les citoyens ne vont pas forcément les comprendre, mal les interpréter. Mais là où ils se trompent, c'est que c'est le silence, justement, qui va générer le plus de psychose. C'est ça qui est dommage.
Alors, on parle beaucoup depuis deux jours de cette directive Seveso qui permet de classer les sites industriels à risque sur le territoire afin de prévenir les accidents et quand, malheureusement, il y en a, d'apporter la réponse la plus efficace pour protéger les riverains. Alors, à quoi cela correspond-il ? Comment sont répertoriés ces sites ? Les explications de Mélanie Nunes avec Victoria Rouxel et Diane Cacciarella à Rouen.
Juillet 1976, à Seveso, près de Milan, une usine de produits chimiques explose. Un nuage toxique envahit la ville de 17 000 habitants. La végétation est entièrement brûlée. 3 000 animaux meurent. Des dizaines d'enfants sont hospitalisés. Au quatrième jour, les premiers signes d'inflammation sur la peau apparaissent, attaqués par la dioxine et la soude. Aucun mort, mais des milliers de personnes contaminées. Il faudra attendre une semaine pour que l'entreprise communique sur le danger et 10 jours pour que la population de la ville soit évacuée. Une catastrophe industrielle qui a donné naissance à une directive appelée Seveso. Elle recense les sites industriels dangereux et oblige les entreprises à informer immédiatement les habitants en cas d'accident.
Conduite à tenir chez soi, rester chez soi ou rentrer dans la maison la plus proche. Ensuite, fermer portes et fenêtres, arrêter tous les systèmes de ventilation, haute climatisation, aérateur et éviter toute flamme et toute étincelle.
Mais en 2001, la France connaît un drame industriel sans précédent. Le 21 septembre, à 10h17, l'usine AZF de Toulouse est soufflée par une explosion de 300 tonnes de nitrate d'ammonium. Un épais nuage chimique flotte au-dessus de la ville. Le bilan humain est très lourd. 31 morts, dont 21 employés et plus de 2500 blessés.
J'ai entendu une explosion formidable sur le coup de 10 heures à peu près. Et donc j'étais dans ce bâtiment, toutes les vitres ont été soufflées, les cloisons affaissées, le matériel. Donc il y a un certain nombre de blessés par des éclats.
Les victimes pointent alors la responsabilité de Total, propriétaire de l'usine. 2 ans après la catastrophe, une loi est votée, baptisée « loi risque ». Elle prévoit plus d'inspections sur les sites classés, plus d'informations en cas d'accident, ou encore d'éviter de construire dans des zones à risque. Des sites industriels répartis sur toute la France, classés en fonction de leur dangerosité. Ils doivent maintenir un niveau de prévention très élevé, ce qu'on appelle la directive Seveso, renforcée en 2015 lorsque Ségolène Royal est alors ministre de l'Environnement.
Dans les sites Seveso, il y a normalement une inspection par an. Donc nous allons accélérer le rythme, non seulement pour voir si les choses sont bien mises en place, mais aussi pour échanger et aider les entreprises concernées, peut-être à voir des points de vulnérabilité qu'elles n'avaient pas vus précédemment.
Mais ces directives sont-elles bien appliquées sur le terrain ? À quelques mètres de l'usine de Lubrizol, où l'incendie s'est déclaré, certains habitants n'auraient pas reçu les consignes de confinement à temps.
Ma maison est ici, et l'usine est à 70 mètres plus loin.
C'est les portails, là ?
C'est les portails qui sont là. J'ai été réveillé à 5h20 par des flammes de 70 mètres. Chacun essayait de réveiller les voisins en disant « peut-être qu'il faut mieux partir ». Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est la fin de l'incendie et puis ça a explosé ou est-ce que ça va exploser ? Personne ne sait.
Depuis l'accident, la maire de la commune prend des nouvelles.
On passait un petit peu pour savoir comment les habitants allaient et puis comment vous aviez vécu l'événement. Et donc,
Elle assure avoir appliqué les procédures de sécurité pour ses concitoyens.
Nous avions il y a quelques temps distribué aux habitants un magnète qui leur donne les consignes à respecter en cas de risque. Si vous entendez la sirène, réagissez immédiatement et ensuite il y a des consignes qui sont déclinées. Mais le problème c'est que la sirène n'a été déclenchée qu'à 8h du matin alors que l'incendie a débuté à 2h45 et que les premières explosions se sont fait ressentir et entendre à 5h du matin.
Charlotte Goujon réclame aujourd'hui des explications auprès de la préfecture. Sur ce bassin, au lieu de la chimie en France, il n'y a pas moins de 13 usines classées risque majeur.
Sébastien Bailly, là, c'était très clair dans le reportage. Il y a la théorie et la pratique. La sirène n'a pas sonné. On ne sait pas quoi faire. Quoi. Réagissez, ça veut dire quoi ?
Le choix a été manifestement fait de ne pas faire sonner la sirène au début. C'est-à-dire que, en fait, les habitants se sont rendus compte des choses avant que la sirène ait sonné. La sirène a sonné très tard. Elle a sonné entre 7h30 et 8h. Il y avait eu les explosions, l'incendie, le panache de fumée était là, tout était déjà en place. C'est-à-dire
comme
que la
disiez...
sirène, elle arrive après coup. Attention, il se passe quelque chose, mais tout le monde avait vu. Donc, en fait, on ne comprend plus du tout à quoi elle sert. Alors, Charlotte Goujon, la maire de Petit-Quevilly, dit que le préfet lui a dit. Alors, c'est en deux temps.
Mais vous l'avez interrogé.
Je l'ai effectivement interrogé. Donc, c'était sur le site de West France ce matin. Et elle dit que le préfet a pas voulu le faire parce que sirène, ça veut dire confinement. Donc, il a pas voulu dire aux gens de se confiner avant d'être sûr qu'il fallait qu'ils se confinent. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, si j'ai bien compris. Mais les gens se sont retrouvés sans aucune indication de ce qu'ils devaient faire face à un désastre. Enfin, quand on voit le côté spectaculaire des choses, et vous n'avez pas le son ni l'odeur, là, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, on était seul en face de ce nuage.
Et alors dans le reportage, on voyait très bien le désarroi de ce monsieur qui montrait l'usine. On sentait qu'elle était toute proche et il avait peur en disant « Tiens, mais s'il y a une nouvelle explosion, est-ce que ma maison ne va pas être rasée ?» Question téléspectateur, pourquoi des sites dangereux sont-ils encore situés en pleine ville? Parce que c'est la même chose pour AZF à Toulouse.
Oui, mais parce que ces sites datent pour la plupart des années 50. Ils ont été construits dans les années 50, à une époque où, à l'époque, ils étaient loin des villes, ils étaient en pleine nature. Et puis, avec l'urbanisation féroce des dernières décennies, ils se retrouvent maintenant proches des habitations. Et c'est vrai que quand on voit ce reportage, on imagine l'angoisse absolue qu'ont dû ressentir tous ces gens, surtout que en plus c'était la nuit, donc il y avait l'obscurité,
l'odeur, la flamme,
le fait de pas savoir quoi faire, c'est extrêmement éloquent parce que on comprend vraiment ce qu'ils ont pu ressentir.
Et alors Arnaud Gossemont, on parlait de suspicion, mais pour venir sur AZF, plus de 30 morts, on ne sait toujours pas ce qui a causé cette explosion gigantesque.
Non, effectivement, il y a eu des théories parfois farfelues qui se sont opposées à la suite de cette explosion, les théories les plus folles. On a même parlé d'attentats terroristes.
C'était juste après le 11 septembre, les attentats du 11 septembre.
C'est vrai, en plus. Donc, c'était vraiment dans une période, c'était une période en plus préélectorale. Donc, il y a eu beaucoup de politiques qui sont venus sur place. Ça n'a pas aidé à l'apaisement des choses. Ce qu'on sait malgré tout, c'est que si ce site industriel, c'est comme vous le disiez, avait été situé plus loin des habitations, il n'y aurait pas eu autant de sinistralité et de morts. Le vrai problème, c'est la proximité de l'urbanisme. Mais là-dessus, les responsabilités sont plurielles. D'abord, petit 1, ce sont des sites qui ont été construits avant même qu'on interdise l'urbanisme à proximité. Donc la France était face à un fait acquis. C'est ce site existait déjà. Deux, les riverains eux-mêmes, parfois, attaquent les mesures d'expropriation ou les mesures d'élaboration de ces plans de prévention des risques technologiques. Il y a une culture du risque aussi. Lorsqu'on voit la catastrophe, tout le monde s'en prend à l'État. Mais avant la catastrophe, il y a aussi parfois, effectivement, des associations de riverains qui protestent parce que quand vous faites un plan de prévention des risques technologiques, la valeur de vos biens immobiliers s'effondre. Et donc ça aussi, c'est mal vécu. Je ne le critique pas. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces personnes ont tort. Mais la culture du risque est à géométrie variable en fonction de l'actualité aussi. C'est quelque chose de très humain. Et puis, deuxième problème, ces plans de prévention des risques technologiques qui sont censés isoler ces sites industriels du reste des habitations, ils ont mis 10 ans à être élaborés. On a juste pour l'instant, grosso modo, les bouts de papier. Maintenant, il faut les mettre en application. Ça fait grosso modo depuis quelques années, 2016, qu'on les met vraiment en application. Et là, il y a un souci, c'est l'argent. Parce que ça coûte énormément d'argent. Il faut exproprier, verser des crédits d'impôt, financer des mesures, etc., etc. Tout ça, ça coûte des millions, sinon plus. Ça coûte des millions aux industriels qui ont déjà mis plusieurs centaines de millions pour sécuriser les sites. On ne peut pas dire que les industriels n'aient rien fait, c'est totalement faux.
Mais quand vous dites sécuriser, c'est même face à des attaques, parce que vous parliez de rumeurs, d'attaques terroristes, etc. Ces sites peuvent être l'objet, éventuellement, d'attaques de ce type.
Et là, à un moment donné, il faut aussi se le dire très sincèrement, en droit, on est sur des risques plausibles, évaluables. Ce qui veut dire que concrètement, lorsque vous déposez un dossier de demande d'autorisation pour avoir le droit d'exploiter ce type de site, on ne vous demande pas non plus de tout imaginer. Et c'est vrai notamment, on le sait très bien pour les centrales nucléaires, le risque par exemple terroriste, drone et autres ne sont pas des risques aujourd'hui qui sont dûment répertoriés, parce qu'on est face à des risques qui sont même difficiles à identifier, à évaluer. On est sur de l'incertitude là. Et donc c'est très difficile de... Concrètement, si on cherchait ce genre de risque zéro, vous n'auriez aucune industrie en France, et c'est aussi un choix politique à faire. Est-ce qu'on veut aussi une industrie avec les risques que ça induit?
Alexandra Schwarzenberg.
Oui, je pense qu'en effet, dans le cas d'AZF, l'angoisse a été accrue parce qu'en effet, ça s'est produit 10 jours après le 11 septembre et que pendant quelques temps, en effet, il y a eu un moment de panique où personne ne savait si ce n'était pas une attaque terroriste. Et ça a beaucoup traumatisé aussi toute une population à ce niveau-là.
Laurence Labatte, on parle de la suspicion. On dit que le péché originel, ça a été de Tchernobyl. Est-ce que vous la sentez croissante, ces suspicions? On doute de tout, de la parole du gouvernement. On doute même, puisque je m'adresse à vous, puisque vous êtes une scientifique. Votre parole est remise en cause. Je dis ça parce qu'on doute des vaccins. On doute des nanoparticules. Vous la sentez monter, cette suspicion
généralisée ? Alors, c'est dans l'air du temps. C'est vrai, on doute de tout. Là, on est sur des problèmes de santé humaine. On est sur des problèmes qui s'accumulent. Notre-Dame, c'était au mois d'avril. Hein, donc, c'est très récent. La problématique est différente. Et puis, à chaque fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ces informations qui arrivent au fur et à mesure, ces informations qui sont... parfois annoncées, qui sont des informations, ouais, notamment dans le domaine de la toxicologie scientifique, et qui ne sont pas toujours bien comprises par la population, pas toujours non plus bien transmises, excusez-moi, par les journalistes, parce que c'est difficile, c'est un métier. Et donc, de ce fait, d'avoir des informations erronées, souvent, c'est moins bien que d'avoir...
Mais les patients remettent en cause par moment ce que vous leur dites?
Alors
vos recommandations?
Il y a deux choses. C'est que soit vous faites... Alors, dans mon métier, on rend un résultat ou un contexte à un patient donné, parce que moi, je fais de la surveillance biologique pour une personne qui va venir me voir et on interprète son bilan par rapport à la personne. Là, on est sur des problématiques beaucoup plus complexes. Vous voyez bien qu'on n'a pas parlé de surveillance biologique, on a parlé d'une surveillance de l'air. Donc, on est sur un contrôle général qui va concerner je ne sais pas combien de personnes dans la population.
Donc, plus de 400 000 habitants.
Voilà, hein. C'est plus du tout la même approche. Donc, bien évidemment... que dans ces approches très générales qui ne sont pas maîtrisées, parce que chaque cas est unique, heureusement ou malheureusement, et de ce fait, il y a encore des incertitudes, des diffusions d'informations qui ne sont pas correctes.
Voilà, et bien tout cela nous amène à la pollution au plomb qu'on a vécue à Paris suite à l'incendie de Notre-Dame, ravagé donc par... l'incendie a occasionné une pollution au plomb. Alors, quelle est l'ampleur de cette contamination? C'est la question que se posent aujourd'hui les riverains du quartier de Notre-Dame et certaines ONG qui reprochent là aussi aux autorités le manque de transparence. Vous voyez ce sujet de Juliette Vallon et Laszlo Gélabert.
Lorsque Notre-Dame s'enflamme le 15 avril dernier, plus de 400 tonnes de plomb contenues dans la flèche de la cathédrale et de la toiture s'envolent dans le ciel parisien. Un nuage de particules et une question, quelle est la réalité de la contamination dans la capitale? Début mai, 3 semaines après l'incendie, l'Agence régionale de santé confirme la présence de poussière de plomb aux alentours de Notre-Dame, mais déclare qu'il n'y a pas de risque à l'inhaler. Pourtant, dès le mois de juillet, plusieurs écoles proches du site ferment leurs portes par précaution. Soupçonnée de ne pas être assez transparente, la mairie de Paris se défend.
Nous n'avons rien à cacher depuis le début. Hein. La réalité, c'est que c'est depuis le début. Moi, je regrette, à titre personnel, qu'on n'ait pas assez vite publié, qu'en particulier l'État ait autant peiné à publier les premières cartographies qui aurait dû être donné. Ça a suscité des suspicions qui, pour moi, n'étaient pas fondées.
Dans la foulée, pendant l'été, les établissements scolaires proches de Notre-Dame ont été nettoyés afin de garantir une rentrée sans risque pour les élèves. Une mesure qui ne dissipe pas les doutes pour de nombreux parents.
J'ai reçu un mail hier qui me disait qu'il y avait encore des taux de plombémie supérieurs à la normale dans la cantine. Donc ça m'a un peu inquiété, j'ai pas trop compris.
On aurait aimé plus d'informations plus claires. Et c'est vrai que là on pose la question sur la cantine, ils ne savent pas trop. Et c'est des petits, ils mangent, ils sucent le pouce. Voilà, donc on aurait aimé qu'il y ait plus d'informations et plus précises. Ça reste encore un peu flou.
Une psychose autour de la contamination, encore alimentée par cette enquête publiée par le New York Times le 17 septembre dernier.
Les autorités françaises ont refusé de fournir les résultats de leurs tests concernant la contamination au plomb. Les autorités ont alors été soupçonnées de vouloir privilégier la reconstruction de la cathédrale au détriment de la santé de milliers de personnes.
Sur cette animation, le journal américain illustre les taux anormalement élevés de plomb rejetés par l'incendie, jusqu'à 1300 fois supérieurs aux normes de sécurité françaises. Plus de 6000 enfants vivant à moins d'un kilomètre de la cathédrale auraient été exposés. De son côté, l'association environnementale Robin des Bois présente ses résultats d'analyse effectués dans un appartement du 7e arrondissement.
Ces prélèvements révèlent des teneurs extrêmement importantes sur le balcon qui est face cathédrale, on peut dire, 117 000 microgrammes par mètre carré de plomb. Je vous rappelle que les différents seuils qu'on a eus successivement sont de 5 000, seuils arbitraires décidés par l'Agence régionale de santé.
Le président de l'association qui dénonce la lenteur des autorités.
Maintenant, la mairie de Paris veut faire des tests dans 60 établissements scolaires, alors qu'on leur dit depuis le mois de mai qu'il fallait intervenir et éventuellement fermer certaines écoles à titre de précaution. Le plomb est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique une substance sans seuil. C'est-à-dire que toute incorporation dans l'organisme, pour les adultes et pour les enfants, est nocif pour la santé.
Des élus de Paris réclament aussi plus de précision, comme la maire du 5e arrondissement. La transparence est primordiale sur le sujet de la pollution au plomb à la suite de l'incendie de Notre-Dame. C'est pourquoi je réitère ma demande de publication d'une cartographie évolutive sur le site de la ville. La semaine dernière, la mairie de Paris a annoncé un plan d'action pour poursuivre et renforcer le nettoyage de structures accueillant les enfants. Entre avril et fin août, près de 400 tests au plomb ont été effectués sur des mineurs, selon l'Agence régionale de santé.
Alors, Laurence Labatte, on va savoir le faux du vrai, puisque le New York Times affirme dans son enquête que 400 enfants ont été l'objet de prises de sang et que parmi eux, il y a plus de 8% qui présentaient un taux au plomb trop élevé. Alors, c'est vous qui avez effectué ces tests sanguins. Vous confirmez ces chiffres ?
Alors d'abord, on a effectué une partie de ces tests, hein, parce qu'on n'est pas le seul laboratoire à réaliser ces tests. Ce n'est pas tout à fait ces termes-là qu'il faut utiliser. Il faut savoir que notamment, ce qui importe, c'est la toxicité du jeune enfant, de l'enfant de moins de 6 ans. Pourquoi ? Parce qu'on connaît le plomb, on connaît la neurotoxicité du plomb chez l'enfant qui est en train de se développer. Donc on fait particulièrement attention à cette catégorie d'enfants. C'est pour ça qu'il y a des surveillances en maternelle, en crèche, etc. Là, ce qu'il faut dire exactement, c'est qu'il y a une zone de vigilance qui est entre 25 et 50 microgrammes litre, qui a été créée il y a peu de temps, qui n'existait pas avant, pour justement, toujours par mesure de précaution, surveiller particulièrement ces enfants qui sont juste en dessous de la limite de toxicité déclarant le saturnisme, qui est pour l'enfant, je vous le rappelle, à 50 microgrammes litre. Donc oui, on a quelques enfants qui sont dans ces zones-là, on en a très très peu qui sont en dessous de 50, c'est vraiment, ça se compte même pas sur les doigts de la main. Alors, on doit faire attention, on doit surveiller ces enfants ont des consultations particulières, vont revenir, on va faire une enquête environnementale et ça a été fait sur la façon dont ces enfants vivent, c'est-à-dire est-ce que ils ont été imprégnés de plomb par la proximité de leur habitat à côté de Notre-Dame. Est-ce que, c'est une autre raison, il y avait la période de vacances, est-ce qu'ils ont eu une imprégnation différente ? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on doit se poser. Et si vous voulez, si je peux me permettre d'émettre un avis par rapport au recul qu'on a maintenant, puisqu'on est fin septembre et à la surveillance que l'on fait maintenant depuis que c'est arrivé, c'est-à-dire c'était mi-avril, depuis mai, on a certes quelques rares enfants qui ont des plombémies un petit peu plus élevées que la normale, mais c'est absolument rien par rapport à ce qu'on observe habituellement dans notre laboratoire quand on fait des surveillances de jeunes enfants qui habitent des logements insalubres dans des régions très très proches de Paris.
Ah oui, et alors pourquoi ? Parce qu'il y a des pollutions au plomb un peu partout,
parce qu'il y a une pollution au plomb dans les peintures, vous savez, sur les vieux habitats, ouais. Et il y a des enfants qui habitent encore dans ces logements-là.
Donc, il faut se méfier des vieilles peintures ou des vieux revêtements.
Ah oui, ça c'est quelque chose qui est très connu. Hein,
parce que le plomb, il ne faut absolument pas en avoir dans le corps. C'est totalement.
Non, on a tous du plomb. On a tous du plomb. On a eu de l'essence au plomb depuis. C'était encore il y a 20 ou 30 ans. Si je vous prélève un tube de sang aujourd'hui que je repars dans mon laboratoire le doser, on a tous du plomb. Mais déjà, on est adulte. Donc, à un certain niveau de plomb, ça ne va pas modifier votre capacité d'apprentissage ou...
Question téléspectateur, que risque-t-on quand on respire de l'air pollué au plomb ? Comment ça se manifeste ? C'est quoi le saturnisme ?
Alors, le saturnisme, en fait, c'est une pathologie principalement neurotoxique, un petit peu hématologique également, qui touche particulièrement, enfin, qui a un impact particulier sur le jeune enfant. C'est ce que je vous disais. Donc, Nous, par exemple, on se retrouve impacté avec du plomb en teneur un petit peu plus élevée lié à un événement comme Notre-Dame. Ça n'aura pas beaucoup d'impact sur notre santé.
En tous les cas, cette polémique est née des mois après l'incendie de Notre-Dame. Est-ce que dans quelques mois, on pourrait se réveiller en apprenant qu'à Rouen, il y avait tel ou tel produit dans cette usine Seveso que les Rouennais ont inhalé et qui présente des risques dangereux?
Alors, c'est toujours la question. On peut toujours se demander parce que, déjà, on ne connaît pas, comme vous le disiez, la liste des produits dans l'usine. Donc, est-ce qu'on va se réveiller dans deux mois et puis on va nous annoncer qu'en fait, par exemple, il y avait des tonnes de benzène? Et ça, ça peut poser un souci. Donc oui, c'est toujours la question qu'on se pose. On ne sait pas ce qui va se passer. Là, on est sur un événement qui vient de se passer. On est sur une évaluation des risques présente à court terme. Mais ce qui est très important en toxicologie notamment, c'est savoir ce qui va se passer dans un mois, dans deux ans, dans un an ou dans dix ans par rapport à cette exposition qui date il y a trois jours.
Mais Arnaud Gossemont, on comprend le doute, on nous cache quelque chose. On savait qu'il y avait 460 tonnes de plomb sur la toiture de Notre-Dame. Donc forcément, si le toit brûle, 460 tonnes de plomb se répandent dans les alentours. Et ce n'est pas anodin.
Oui, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, je me rappelle sur Twitter, au moment même où l'incendie prenait, il y avait déjà des personnes qui disaient « mais il y a du plomb, il y a tant de plomb ». Il y avait des personnes qui avaient manifestement des informations. Alors après, il y a des gens qui s'auto-proclament experts, ouais. Mais là, l'information a tout de suite circulé. Alors, juste une précision, sur Notre-Dame, donc on savait, et normalement, dans une usine Seveso, vous avez un cahier d'entrée de toutes les substances dangereuses, pas dangereuses, avec une autorisation très précise. C'est une infraction de faire entrer une substance ou un matériau qui n'est pas autorisé dans cette liste-là. C'est pour ça que c'est Seveso.
Donc, après, il a publié cette liste?
Alors, elle est publiée, vous trouvez les arrêtés d'autorisation, il faut bien chercher sur les sites de la préfecture, mais ces arrêtés et leurs annexes, normalement, sont tous mis en ligne. Je ne suis pas allé vérifier pour cette usine-là, mais c'est une obligation légale de tout mettre en ligne, y compris les études d'impact, les études de danger préalables. Ce n'est pas d'une lecture passionnante, c'est ardu, mais normalement, toutes ces informations sont des informations publiques, accessibles au public, et qu'on peut lire, effectivement. Je voudrais juste un tout petit mot sur la culture du risque. C'est très intéressant, parce que ce qui va menacer notre santé, ce n'est pas nécessairement la grosse exposition. Quelque chose de spectaculaire. Là, c'est très spectaculaire. Je ne remets pas en cause l'émotion qui est celle des riverains. Et si j'avais été à côté, je pense que j'aurais été le premier paniqué. Mais c'est vrai qu'on se panique beaucoup moins pour des risques diffus. Je pense notamment aux risques...
Peinture au plomb.
Oui, et ce que vous dites est très important. C'est vrai que parfois, le droit progresse beaucoup. Par exemple, il y a eu AZF. Tiens, on fait une grande loi sur le risque. Mais par contre, sur tous ces enfants, notamment en Seine-Saint-Denis, qui sont chez des marchands de sommeil, qui effectivement sont exposés à de la peinture au plomb, on sait que c'est un drame sanitaire. Là, par contre, la loi ne va pas beaucoup progresser. Et c'est un peu un regret, quand on est juriste, de voir que le droit progresse pour certaines catastrophes spectaculaires, mais pas sur des risques diffus, qui n'inquiètent pas.
Voilà, si je peux me permettre de compléter, c'est pour ça que dans ce cadre-là, pour Notre-Dame, les associations de protection des enfants se sont servies, finalement, entre guillemets, de cet événement pour mettre en avant l'imprégnation des jeunes enfants dans le centre de Paris au plomb. Parce que, évidemment, il y avait déjà du plomb avant que Notre-Dame flambe.
C'est ce que dit Anne Hidalgo, d'ailleurs.
Mais bien
c'est
sûr.
Un sujet qui est vieux.
Bien sûr. Sauf qu'il n'y avait pas.
Et c'est spécialement Paris qui est pollué au plomb.
C'est vieux bâtiments. Vieux bâtiments, vieilles peintures. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'appartements, d'endroits qui ont été refaits, repeints, et qui masquent tous ces problèmes de peinture au plomb. Mais on retrouve ce phénomène d'imprégnation au plomb qui existait à Paris, mais qui n'était pas non plus forcément bien mesuré.
Lié, à la faveur de l'incendie de Notre-Dame. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Combien de temps le benzène va-t-il rester dans l'air? Pouvons-nous rentrer chez nous avec nos enfants? C'est quelqu'un de Seine-Maritime, voilà. Donc, qui est, comme vous le disiez, Sébastien Bailly a pris l'air aujourd'hui, qui revient, on lui dit qu'il y a du benzène. Donc, il faut espérer. Qu'est-ce qui pourrait rassurer les Rouennais? Un bon coup de vent
Alors, le préfet a essayé de rassurer les Rouennais. Il a dit que l'air était respirable à 17 heures. Donc, a priori...
Et qu'il ne fallait pas manger ce qu'on trouvait par terre.
Et puis, ça avait l'air localisé aussi, d'après ce qu'on a entendu. Localisé, voilà. Une zone particulière. Ouais. On n'a pas retrouvé du benzène dans tout le monde.
Le benzène dont il a parlé est sur la zone de Lubrizol, sur le territoire de Lubrizol. Donc, a priori, il est à cet endroit-là. Pour les légumes, c'est un peu plus compliqué. J'ai vu des légumes à 30 km de Rouen avec de la suie dessus. Donc là, il y a un peu plus de distance à parcourir.
Les habitants de Rouen se sont-ils sentis abandonnés par le gouvernement? Et puis Sébastien Bailly, j'ajoute, vendredi, tous les médias ne parlaient que de la mort de Jacques Chirac.
Alors, les médias ont basculé sur la mort de Jacques Chirac. On parle des médias nationaux qui ont basculé sur la mort de Jacques Chirac au moment où Jacques Chirac est mort, ce qui est une hiérarchisation de l'information qui a laissé les Rouennais branchés sur les chaînes d'info en continu un peu orphelins des informations qui les concernaient. Mais la presse locale a continué de faire son travail.
Dont Ouest France.
Dont Ouest France, 76 Actu, Paris-Normandie, je peux citer les confrères. France Bleu, France 3, on était là, on a continué, l'information a continué à circuler, donc l'information existe. C'est aussi la différence qu'il y a entre les médias locaux et les médias nationaux. La hiérarchisation de l'information n'est pas la même et c'est fort naturel.
Est-ce que vous êtes senti abandonné ?
Oui.
Je voudrais quand même préciser qu'en effet, nous, on a fait vendredi matin un numéro spécial Jacques Chirac, mais c'était un numéro spécial avec à l'intérieur un cahier d'actualité dont la une était la tragédie de Rouen. Et dès jeudi, on a envoyé tout de suite quelqu'un sur place pour faire un reportage et nous raconter ce qui se passait parce que, bien évidemment, on avait conscience que c'était très important.
Comment est-il possible qu'une usine classée Seveso soit en centre-ville ? Alors, on le disait, c'est le fruit de l'histoire, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faudrait maintenant mettre ces sites classés dangereux en dehors des villes ?
Mais alors ça, c'est exactement ce que disait Arnaud Gossemont tout à l'heure. Le problème, c'est le coût. Vous me direz si je me trompe, mais manifestement, il n'y a pas de solution miracle ou alors à un coût énorme. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces sites ? Vous ne pouvez pas les fermer, parce que alors là, en plus, il y a un problème d'emploi, parce que ce sont des sites qui emploient beaucoup de monde. Donc là, il y a un problème d'emploi. Vous ne pouvez pas les dépolluer. Vous pourriez, comme vous le disiez, exproprier les gens tout autour. Mais alors là, ça coûterait un pognon de dingue, si je puis dire. Et voilà, donc, je vous me démentirai si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas de solution miracle.
Ce sont des sites qui manipulent des hydrocarbures. Quel type de matériaux trouve-t-on dans les sites Seveso ?
Non, effectivement, ce sont des substances dangereuses susceptibles d'exploser. C'est surtout pour ça qu'on les classe Seveso. Vous avez parfaitement raison, il y a un problème de finances publiques. Il faut mettre de l'argent, mais pas que. Regardez, par exemple, à AZF, le hiatus entre les différents écologistes et politiques qui réagissent à la catastrophe d'AZF. Les syndicats souhaitaient la réouverture de l'usine et la remise en marche de l'outil industriel. On va avoir la même polémique dans les jours prochains. Est-ce qu'il faut rouvrir Lubrizol ? Voilà.
Il faut fermer Lubrizol.
Mais c'est normal, vous avez 200 salariés sur le site. Hein.
Oui. On a déjà la direction de Lubrizol, dont la première prise de parole...
Société américaine.
Oui, appartenant à un milliardaire, dont la première, prise de parole, c'est « bon, ben, on va rouvrir maintenant ». Enfin, désolé pour l'incident, et quand est-ce qu'on recommence ? Enfin, je caricature un tout petit peu.
Il n'y a pas beaucoup. Oui, il y a des enjeux d'emploi, on va dire.
Ah, il y a des enjeux, c'est pas...
Quel pourrait être l'impact de cet incendie sur l'agriculture de la région ? C'est vrai que la Normandie, le label normand risque de perdre quelques plumes, là, non ? Alexandra Schwarzbourg.
Ben oui, ce matin, on publie justement un reportage on a envoyé très vite quelqu'un hier, qu'on a renvoyé une seconde fois pour voir des agriculteurs et qui, en effet, sont extrêmement inquiets. Ça, on l'a bien vu dans votre reportage aussi, hein, parce que, en effet, il y a de la suie partout. On ne sait pas du tout quelle va être la conséquence sur les produits. Est-ce que les agriculteurs concernés vont être indemnisés ? Enfin, il y a tout un tas de questions qui se posent, mais en tout cas, cet endroit-là qui est si riche en produits agricoles, qui est donc particulièrement touché. C'est une autre forme d'angoisse, mais qui est maximum, parce que personne ne sait si ces produits vont être bons à la vente ou pas.
Là, il y avait un reportage sur un apiculteur qui disait « Moi, mes abeilles, là, elles butinent des hydrocarbures, le miel risque de ne pas être terrible. » L'eau du robinet à Rouen est-elle potable ? Personne ne dit la même chose. Est-on dans le doute ? Quelqu'un de Seine-Maritime. Est-ce qu'il n'y a pas des gens dans les supermarchés qui achètent des...
Alors,
en tous les cas, pour les vaches...
C'est là où c'est important, effectivement, de ne pas créer la panique au départ quand on ne sait pas ce qui va se passer. Ensuite, pour l'eau, si j'ai bien compris ce que m'a dit ma pharmacienne ce matin... Parce qu'on
Et tout le monde parle de ça.
Voilà. Il faut quand même un peu de temps avant que ça arrive au robinet. C'est-à-dire que même le temps que l'hydrocarbure arrive, on a encore quelques jours devant nous, avant de devoir se poser la question. Mais moi, je n'ai pas de réponse pour le coup.
Non, c'est vrai que ça met un peu de temps. Il faut que ça passe dans la nappe phréatique, etc. C'est toujours pareil, mesure de précaution.
Ouais. La Seine, en revanche, est polluée. Il y a des émanations vers la Seine.
Oui, ça, c'est pas nouveau.
Comment peut-on mesurer l'impact de cette pollution, sachant que les retombées de l'incendie s'étalent sur plus de 60 km ? Donc, comment fait-on ? Il y a des capteurs, on envoie des scientifiques faire des relevés sur les terres.
Normalement, c'est vrai qu'autour des usines, vous avez des capteurs, voilà, qui sont pas tout à fait, c'est pas toujours les mêmes en fonction du type de produits qui sont utilisés. Donc là, j'imagine qu'il y a des capteurs. Après, je ne connais pas bien l'environnement géographique, peut-être vous le connaissez mieux que moi.
Encore faut-il savoir ce qu'on cherche. Voilà. C'est souvent ça le problème. On dit, tout va bien, mais si on cherche un ou deux éléments...
C'est la problématique.
Par exemple, la scène, je pense, va être analysée. Ça c'est très facile d'analyser la scène et en tout cas de voir jusqu'à quelle distance, à quelle distance elle est polluée.
Que sait-on de ces additifs adjoints aux huiles, carburants et peintures, puisque c'est ce qui était fabriqué dans cette usine Lubrizol? Sont-ils, oui ou non, nocifs pour la santé? Laurence Labat, tout ça.
Alors, on revient au même problème. C'est très difficile de répondre puisqu'on n'a pas la liste de ces produits. À partir du moment où cette liste va être diffusée, bien évidemment, on saura classer ceux qui sont toxiques pour la santé de ceux qui ne le sont pas. Après, il faudra savoir quelles sont les teneurs des produits toxiques, puisque c'est ce qui nous intéresse, bien évidemment, dans l'explosion, dans les produits qui ont explosé. Quelle est quelle est la volatilité de ces produits? Est-ce qu'on en retrouve dans les particules, des fumées, etc.? Il y a tout un tas de questions qui ne permettent pas de répondre noir ou blanc comme ça à ce type de questions.
18 ans après l'explosion de l'usine AZF de Toulouse, quelles leçons ont été tirées, Arnaud Gossement?
Il y a des lois qui ont été votées. Il y a des erreurs qui ne sont plus faites quand même. On autorise de moins en moins facilement la création de nouveaux sites industriels. On parle de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, de ce type d'événements. Ils ne sont pas chassés dans l'actualité immédiatement. Je pense qu'on va encore en parler beaucoup. Et puis, le niveau d'information du public est de plus en plus important. Ils sont de plus en plus exigeants aussi, en termes d'information.
Est-il vrai qu'il y a de l'amiante dans les toits? Si oui, quels sont les risques? Alors oui, le préfet a reconnu qu'il y avait de l'amiante, hein, 8000 m² même, dit-on.
En soi, l'amiante n'est pas dangereux. En soi, c'est l'exposition à l'inhalation de fibres d'amiante. Donc, il ne faut pas être au contact de ces fibres. Mais là, on ne sait pas s'il y a des contacts.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez C'est Politique, Karim Rissouli, qui recevra l'historien Jean-Luc Barré. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo.